m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre transpire de partout.
Tu gourdes, hein?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
Apéro, été, vacances. Vacances en famille. Observation sur le terrain de ces familiers autochtones d'un quotidien abandonné 10 ans auparavant. Tout semble aller bien vu de la piscine du village vacances. Tout à coup, les différences de mode de vie tournent au scandale. Les vacances en famille se concluent sur le ton des insultes et des grands cris. La sentence tombe sur un ton méprisant. Je suis une intellectuelle parisienne. Oui. Paris, c'est mon amour du ventre et des poumons qui se détendent de joie dès lors que je sors de mon train. Paris, c'est mon amour qui me fait bander jusqu'au cerveau quand je regarde les garçons de café en chemise blanche qui comptent leur pourboire pendant leur pause clope en répondant aux messages Tinder sur leur téléphone. Bah, j'ai envie d'écrire une thèse. Être une intellectuelle parisienne, c'est se sentir soi-même dans le joyeux chaos parisien. D'ailleurs, l'intellectuelle, elle circule en bus, hein. Elle y regarde les meufs tellement stylées qu'elles ont l'air de pas y faire attention et lit des livres même en marchant. Monsieur, la porte s'il vous plaît, balance-t-elle au chauffeur de bus. Elle est pas toujours très cordiale, mais elle s'extasie 2 mètres plus loin sur un graphe sur un mur. Et hier, l'intello parisienne a regardé le foot, avec un McDo, car on n'est pas une contradiction près. Paris, je t'aime quand j'entends la foule grogner et hurler par mes fenêtres. Paris, je t'aime encore plus quand je descends à la 89e minute rejoindre cette foule et que le barguet où d'habitude les serveurs dansent en caleçon sous la douche diffuse le match sur les écrans tournés vers la rue pour la centaine de supporters qui passaient près de l'hôtel de ville. Hier soir, ce sont d'autres hommes mouillés et musclés, mais aussi en short et courant après un ballon qui sont passés sur les écrans du raid. Paris, je t'aime, une demi-finale de foot qui fait se rencontrer les serveurs sexy en caleçon et les supporters de foot. J'espère qu'il y a une belle troisième mi-temps dans le marais parisien. De belles rencontres à l'apéro, c'est ce qui se passe actuellement à notre émission d'été sur Radio Campus Paris. Rencontre permise grâce au réseau Euromed France qui organise des actions pour partager les savoir-faire et renforcer les organisations politiques et solidaires tout autour de la Méditerranée. Autour de cette table ce soir, donc trois activistes et syriens et libanais. Oussem, bonsoir.
Bonsoir, Massanouri, hala.
Yousra aussi, bonsoir. Vous pouvez, vous allez partager le micro avec Anas qui est à côté de vous, bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, on a, grâce à un traducteur, l'émission de ce soir va super bien se passer. J'ai pas eu l'occasion de vous demander votre nom, excusez-moi, bonsoir.
Ahmad, bonsoir.
Ahmad, et évidemment une émission consacrée à vos engagements, vos actions, une émission rare pour nous permettre de connaître la réalité syrienne, mais pas que. Un format court consacré au portrait de migrants réalisé par Jean ce soir sur Radio Campus Paris. Impossible de ne pas dire un mot sur le match d'hier pour l'équipe de Campus, alors Lucas viendra nous en parler. On me dit dans l'oreillette que peut-être le réalisateur a un message à faire passer. Ne ratez pas la fin de cette émission car il y aura aussi la fiction d'été de Maxime.
J'ai commencé à tourner dès notre arrivée et on n'avait pas fait 2 pas dans la rue qu'on s'est fait arrêter. Donc il a fallu aller passer un entretien au ministère de l'Information, une espèce de grand bâtiment soviétique comme il y en a plein là-bas. On vous fait poireauter dans des pièces vides, personne parle anglais. Et heureusement, grâce à l'attaché culturel, on avait une traductrice française et elle a tout pris sur elle, elle nous a arrangé. Elle a essayé d'embobiner un peu les types en leur disant voilà, ils viennent montrer comme la Syrie est belle et grande. Donc on avait une lettre du ministère de l'Information sur laquelle elle était marquée responsable, ce qui voulait dire que ça voulait dire qu'il fallait faire des choix, c'est-à-dire soit aller vraiment essayer de faire parler les gens, mais peut-être la mettre en danger. Donc c'était un petit peu compliqué à faire parce que le ministère de l'Information voulait qu'on ait absolument un guide et en gros on aurait pu filmer la mosquée des Omeyyades. Merci, au revoir. Donc ce qui était difficile, c'est qu'on rencontre des gens, et des artistes ou pas, des gens qui ont envie de faire changer les choses et qui disent « mais ici, c'est pas si catastrophique que ça ». Et puis on écoute leurs histoires, on a envie de leur dire « mais attends, mais de quoi tu parles, ça va pas du tout ». En plus, ils étaient tellement accueillants, on passait tellement de temps avec eux, que la difficulté pour moi, c'était d'arriver à me taire et à rien leur dire, parce que après, moi, je fais ça et après, je rentre chez moi et tout va bien. Donc je trouvais que c'est le plus difficile pour moi, ça a été ça. En aussi peu de temps, c'est très compliqué, je trouve, de parler de la Syrie.
Frans Zwimberg était journaliste pour l'émission Trax en 2003. Elle part travailler en Syrie et reporte son expérience dans un podcast Arte Radio. On vient d'en entendre un extrait. C'est difficile pour les journalistes de parler de la Syrie. C'est difficile de s'y rendre, d'avoir le droit d'enregistrer. À Radio Campus Paris, nous avons la chance de recevoir de jeunes activistes syriens. Tiana est avec moi pour animer cette émission. Bonsoir Tiana.
Bonjour Elodie et ravie d'être là ce soir avec vous, citoyens engagés en stage à Paris, car oui, vous êtes là pour 11 jours autour du thème « État de droit et participation citoyenne ». Un vaste programme qui a pour objectif de vous permettre d'acquérir des outils de sensibilisation thématique, de développer des relations solidaires avec la société civile et vous permettre de porter la voix de la jeunesse syrienne dans le débat public français. Et on a hâte que vous nous en parliez.
Justement, une première question pour vous tous. Dans votre parcours personnel, à quel moment et quel est votre premier souvenir où vous vous êtes senti engagé ?
في خلال مسيرتك الشخصية الخاصة كل واحد من كنتوا الثلاثة في أي لحظة من لحظات حياتكم اكتشفتوا أنه أنتوا يعني بلشتوا تصيروا ناشطين وقررتوا أنكم تصيروا ناشطين في المجتمع المدني
أنا بالنسبة لي لما جيت على لبنان شفت صوت اللاجئين هناك في عدد هائل من اللاجئين كانوا موجودين بلبنان.
En ce qui me concerne personnellement, depuis que je suis arrivé au Liban, je vis qu'il y a tant de réfugiés syriens exilés au Liban.
لقيت حالي إنه مجبور إني اتطوع بإني ساعد اللاجئين بقدر ما أنا أستطيع يعني.
Je me suis trouvé dans l'obligation humaine de aider ces exilés et ces réfugiés et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me porter volontaire pour l'aide en urgence de ces exilés.
Je me tourne vers Anas pour cette même question.
Anas, نفس السؤال.
بالحقيقة أنا بلشت نشاط من وقت ما كنت بسوريا قبل ما ألجأ إلى لبنان.
En vérité, moi personnellement, j'ai commencé mes activités longtemps avant que j'arrive au Liban, depuis que j'étais encore en Syrie.
لما بلشت الاحتجاجات بسوريا وبلش النظام يستجيب لها بصورة قمعية كان
depuis que les manifestations ont commencé en 2011 et que le régime syrien a riposté sauvagement contre ces manifestations
بلشنا ننظم حالنا كنشطاء مجتمع مدني ضمن تنظيمات مدنية لتنظيم هذا الحراك.
Nous avons commencé en tant qu'activistes, en tant que jeunes dans cette révolution, à nous organiser pour donner un coup de main à ces manifs. يسرا.
بلشت فكر بأني أشتغل بالمجتمع المدني لما بلش في سلاح كتير بالأرض وكنت بعرف إنه أنا ما حكون بهذا
Depuis que j'ai vu qu'il y a beaucoup des armes dans la rue après les manifestations et que j'ai compris tout de suite que ce n'est pas ma place avec les gens armés.
En Syrie, c'était difficile de travailler avec le civil et encore. Alors, quand je suis arrivée au Liban, j'ai commencé à travailler avec les enfants.
Mais à ce moment-là, travailler en Syrie, c'était très difficile. Travailler comme activiste dans la société civile. Donc, depuis que je suis arrivée au Liban, j'ai commencé vraiment mon activité sociale.
Vous, en tant que jeune, quel rôle dans la société civile vous voulez porter ?
أنتم كشباب ماذا يمكن أن تحملوا إلى المجتمع المدني من خلال نشاطكم كشباب أنس
نحن قبل ما يصير في ثورة بسوريا بال 2011 ما كان في شكل واضح للمجتمع المدني
avant 2011 avant que la révolution ne commence en Syrie il n'y avait pas encore une forme réelle de la société civile la société n'existait pas réellement
كان المجتمع المدني هو شيء محظور في سوريا
Parce que toujours l'activité sociale était interdite dans le pays.
من 2011 لغايه الان نحن نبني وما زلنا نبني الشكل الحقوقي للمجتمع المدني.
Nous construisons donc depuis 2011, nous construisons la forme juridique de cette société civile. يسرا؟
صراحه قبل ما بلشت الثوره بسوريا ما كان عندي اصلا تخيل عن عمل المجتمع المدني او اصلا عن وجود هيك كيان بالمجتمع.
Avant la révolution, je n'avais même pas le savoir qu'il y ait, que ça existe quelque chose qui s'appelle la société civile. Je n'avais aucune connaissance de ce domaine. C'est qu'après la révolution que j'ai eu connaissance de la société civile. حسين؟
أنا بالنسبة لي كوني أنا عشت بشمال سوريا فالوضع كان مختلف، يعني من ناحية أنه الناس عم تدور على منظمات المجتمع المدني أنها تشتغل، بس بنفس الوقت إحنا كنا عم ندور أنه ما يتم اعتقالنا لسبب أنه عم نحكي بلغة أو ممارسة لطقوس.
Pour moi qui viens du nord de la Syrie, c'est-à-dire de la région kurde, avant 2011, on avait connaissance de la société civile, on cherchait toujours des activités pour préserver et pour préserver pardon et pour montrer notre voix en tant que qu'une culture dans la Syrie, la culture kurde dans la Syrie. C'est pour ça que toutes les activités que nous faisons avant c'était des activités secrètes. On a attendu la révolution pour que ces activités apparaissent et qu'on puisse travailler sous le soleil.
Du coup, je rebondis peut-être plutôt pour Yousra et Anas. Est-ce que vous voyez ça dans tout ce qui peut être terrible, finalement une chance de faire émerger cette société civile ?
أتجه إلى يسرى وأنس والسؤال المحدد هو يعني أنتم بتشوفوا إنه في حظ هلا إنه يعني عملكم إنه ينشط المجتمع المدني.
طبعا هلا هي البيئة الملائمة لعملنا كنشطاء مجتمع مدني بفترة النزاع.
نحن actuellement nous sommes dans la période de conflit et c'est bien sûr notre travail est très efficace et très propice à l'aide des gens et aussi à faire vivre la société civile.
للأسف نحن عم نشتغل بالمجتمع المدني السوري من خارج سوريا لأنه هو محظور في سوريا.
Malheureusement, nous travaillons dans la société civile syrienne de l'extérieur de la Syrie parce qu'elle est interdite à l'intérieur même.
نعمل مع الحاضنة السورية الكبيرة عفوا مع الفئة السورية الكبيرة بلبنان اللي هي فئة اللاجئين.
Nous travaillons avec la pépinière avec la société syrienne émigrante au Liban même.
وكمان نعمل مع السوريين المتواجدين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
Et nous travaillons également avec les Syriens qui se trouvent dans les régions syriennes en dehors du contrôle du régime.
بهاي المساحة عم نقدر نشتغل عدة أدوار للمجتمع المدني.
Dans cet espace, nous arrivons à faire réaliser plusieurs rôles de l'activité civile.
عم نقدر نساعد بخدمات إغاثية تمكينية تدريبات نشر
dans l'urgence dans la formation des jeunes
وبالتوثيق
et dans la documentation aussi.
Des aspects très concrets de votre engagement que on pourra reprendre tout de suite car c'est l'heure de la pause sur Radio Campus Paris.
إذن أشكال مختلفة. أهل عريس بلادك ما أرينا يا العريس بلادك ما أرينا يا بلادك من جبل عجل قطعنا يا بلادك من جبل عجل قطعنا وتفسرت بحلم واهتزت الشام يا العريس
Yeah.
Sélection musicale syrienne de nos invités de l'apéro de ce soir. Vous écoutiez Nejmet Sobe de la chanteuse palestinienne Sanaa Moussa.
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À bras ouverts, la série de portraits pour comprendre ce que sont les campements de réfugiés du nord de Paris et découvrir les solutions qui existent pour l'accueil des personnes migrantes. Aujourd'hui, nous écoutons Romain, qui est membre de United Migrants, une association inclusive qui vient en appui des réfugiés. L'association est membre des États généraux des migrations, une initiative collective qui a de l'avenir.
Alors moi, c'est Romain et je suis de l'association United Migrants. C'est une association qui a été lancée en 2015 et qui s'organise avec des réfugiés, qui s'impliquent sur des projets. L'objectif de l'association, c'est que les réfugiés soient pleinement partie prenante et qu'ils soient moteurs dans l'association. On a une permanence juridique, on aide pour les problèmes de logement, les problèmes de dossiers, et puis on organise aussi des concerts. On est en train de monter une équipe de cricket. Voilà, il y a plusieurs projets en même temps et on essaye d'agir toujours ensemble. L'association, elle s'est montée pendant l'occupation de Jean Carré. C'était un bâtiment vide qui était occupé par des réfugiés dans le 19e arrondissement de Paris en 2015. Et les réfugiés qui étaient présents à l'issue de l'occupation avaient envie de continuer à s'organiser. Et avec certains d'entre eux, on a décidé de lancer l'association. Alors, on participe au sein des États généraux des migrations, qui est un regroupement de plus de 400 collectifs et associations sur tout le territoire, qui agit pour une autre politique migratoire. C'est-à-dire que depuis des années, il y a des politiques qui remettent en cause le droit des migrants qui vivent ici, que ce soit des difficultés pour obtenir des papiers, des difficultés pour reconnaître le droit d'asile. C'est des politiques qui se poursuivent. On le voit avec la loi Collomb qui remet en cause vraiment les droits des étrangers en France, qui est une loi qui change en profondeur la société. Et le but des États généraux, c'est de s'organiser ensemble pour proposer une autre politique et aussi pour être plus fort par l'échange d'expériences et par les propositions communes.
Ces États généraux ont pour vocation de proposer des alternatives au gouvernement.
Au départ, c'était plusieurs associations qui se sont regroupées pour proposer une autre politique migratoire. Et puis ensuite, ça a pris. Il y a eu de plus en plus de groupes locaux qui ont rejoint. Et l'idée, c'était vraiment que ce soit élaboré par en bas. C'est pour ça qu'il y a des cahiers de doléances qui ont été rédigés avec des dizaines de propositions. Et ça a permis ensuite, le mois dernier, d'élaborer un cahier de propositions et de revendications qui permettent justement de lutter ensemble pour une autre politique migratoire. C'est un regroupement de plus de 10 000 personnes, plus de 400 associations et collectifs qui peut avoir une vraie force de frappe. Chaque personne qui vient rejoindre peut apporter un plus et c'est ce qui permettra d'enrichir cette dynamique et d'être plus fort ensemble.
Merci de donner de la voix à ce dont nous témoignons, mais aussi à notre volonté de mettre un terme à ces politiques inhumaines de harcèlement des migrants et des personnes qui viennent en aide aux migrants.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça amène non seulement à des demandes communes qu'on a réussi à élaborer, mais qu'on mette en place des campagnes, qu'on arrive à agir tous ensemble, et que ça permette aussi que les premiers concernés, que ce soit des sans-papiers, des réfugiés ou demandeurs d'asile, soient pleinement impliqués dans ce processus. Ça commence à être le cas, il faut que ce processus s'accentue. On a des prochaines réunions nationales qui sont fixées notamment en septembre-octobre. Et là, ça permettra aussi de définir des axes pour avancer tous ensemble.
Un grand merci à toi Romain pour ce témoignage. Nous nous retrouvons donc en septembre dans le cadre des États généraux des migrations ou dès maintenant chez United Migrants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page d'Abras Ouvert sur radiocampusparis.org.
J'y pense tout le temps.
À bras ouverts est un format court de portraits de migrants et pas que, créé par Jean pour Radio Campus Paris. On entendait à l'instant Romain de l'association United Migrants. Ce reportage est à retrouver sur notre site. 19h21, bientôt déjà sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure de retrouver nos invités. Qui sont tous les trois Syriens au Liban, tous les trois activistes et engagés. Houssen, Yousra pardon, et Anas nous parlent de leur engagement. Concrètement, quel est le quotidien ? Quelles sont vos actions ?
بالحياه اليوميه ما هي افعالكم بشكل واضح بشكل فعلي.
هلا بالنسبه لي انا ب 2014 كنت استاذ لمجموعه اطفال سوريين لاجئين.
En 2014, personnellement, j'étais professeur enseignant de plusieurs jeunes enfants réfugiés.
وبعدين انا صرت متطوع بالمجال القانوني للاجئين فيما يتعلق بالاقامه وتسجيل الولادات والطلاق.
Après, je suis devenu volontaire dans les affaires juridiques des réfugiés, tout ce qui concerne les contrats de mariage, l'enregistrement, les divorces, etc.
Comme متطوع طبعا.
Comme volontaire bien sûr. Anas.
أنا بشتغل بمنطقة شتورة بروجرام أوفيسر بمنظمة اسمها Women Now.
Moi je suis directeur exécutif d'une organisation dans les BK dans la région de شتورة qui s'appelle Women Now.
بنشتغل تدريبات وأنا ممكن يعني بشتغل أكثر من شيء بشتغل مدرب بالworkshops وكمان بشتغل بتنسيق البرامج.
Je travaille comme entraîneur, comme professeur, enseignant aussi dans les workshops, mais en même temps, je suis organisateur de coordinateur de programme.
Yousra.
أنا طالبة علوم اجتماعية فبقضي وقتي غالبا بين الجامعة والدرس ومتطوعة كمان بمنظمة وبنشتغل على توثيق الانتهاكات اللي عم يتعرضوا لها الشباب السوري.
Je suis d'ordinaire, je suis étudiante en sociologie au Liban, à l'université libanaise, mais en même temps, je passe mon temps, une laps de mon temps, à travailler sur la documentation des violations des droits de l'homme contre les jeunes Syriens.
C'est le sujet de votre recherche universitaire ?
هذا هو موضوع بحثك في الجامعة.
لا هو بس تطوع هذا غير شيء.
Non, c'est pas mon sujet de spécialisation. C'est juste dans le volontariat. Je travaille en tant que volontaire.
Et alors, justement, tout cet engagement, est-ce que vous considérez que vous faites preuve d'une forme de courage ou est-ce que pour vous ça vous semble simplement naturel ? Il n'y a pas le choix. Tous les matins, vous vous levez et c'est cette action que vous faites.
هذا الالتزام من قبلكم في العمل الاجتماعي هل تعتبرون هو عمل شجاع ولا أصبح عمل بيروقراطي روتيني بتفيقوا الصبح وتقولوا يلا نحن رايحين نشتغل بالمجتمع المدني.
Yousra, pour commencer, t'as l'air d'être la plus jeune en plus. Est-ce que ça demande du courage de...
انت يبين عنك اني صبية الأصغر بيناتنا فهل تعتبرين هذا بدك شجاعة حتى تعملي هذا العمل المدني؟
هلا هو بيتطلب شجاعة بمطرح معين بس لما بيكون في محبة للشيء اللي عم ينعمل فإنه بصير هو دافع أكثر وبناء للذات ولعلاقتك مع الآخر.
C'est en principe, oui, ça demande beaucoup de courage, mais à un certain moment, puisque vous faites ça avec amour, donc vous êtes stimulé, vous êtes enthousiaste pour aller travailler avec les gens qui ont besoin. Et ça serait, c'est très, très joli de donner quelque chose à ces gens-là.
أنا بشوف عملي بالكناشط هو مسؤولية.
Mon travail en tant qu'activiste est une responsabilité pour moi.
مسؤولية كحد عم يقدم خدمة ويساعد الناس اللي هن مواطنين معه بنفس الفضاء العيشي اللي هن بنفس الوطن.
Une responsabilité à l'égard des citoyens qui sont mes citoyens, mes concitoyens et qui ont besoin de moi.
وهو تفعيل لدوري كمواطن عم بشتغل بالفضاء العام.
Et c'est une activation de mon statut en tant que citoyen dans cette société.
وكمان بشوفه انه هو عمليه تبادليه يعني انا عم بعطي وكمان انا عم باخذ.
C'est aussi une action mutuelle, je donne et je réciproque, je donne et je reçois pour les gens.
هلا بالنسبة لي أنا بشوف التطوع هو واجب علي كلاجئ سوري مقيم في لبنان.
Pour moi, en ce qui me concerne, le volontarisme est un devoir pour moi à l'égard de mes concitoyens vivant au Liban.
والعمل التطوعي اللي عم نقوم فيه هو عمل ضئيل جدا ما بيضاهي مستوى التطلعات.
Et le travail que nous faisons, malgré son importance, reste minime par rapport aux besoins.
أحيانا يعني نصيب بخيبة الأمل لما منجمع الاستمارات للاجئين للأوضاع القانونية وما منلاقي أي نتيجة.
Nous sommes souvent confrontés à des déceptions quand on, par exemple, on remplit les formulaires des réfugiés et on les ramasse, on les collectionne et on trouve pas de solution à leurs besoins.
Vous avez parlé de donner, de recevoir, d'un sentiment de devoir. Ici, vous êtes là pour un stage, pour apprendre, avoir des outils à transmettre. Qu'est-ce que vous aimeriez rapporter en Syrie,
en Liban ?
بالحقيقة نحن بفرنسا هون عم نعيش المواطنة الفرنسية.
Nous sommes ici dans notre stage, nous vivons la citoyenneté à la française.
ولكن أدوات حقيقية ما فينا نستخدمها إنه نأخذ الأدوات الفرنسية ونطبقها بمجتمعنا.
Mais à vrai dire, les outils que nous abordons ici, on peut pas les prendre et les appliquer dans une société différente.
نستخدم التجربة الفرنسية في التدريبات والورش العمل اللي نحن بنعملها في لبنان.
On va apprendre les gens dans nos workshops. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté en France? Comment les Français vivent leur citoyenneté? Isra?
حقيقة هي تجربة كتير غنية. أول شيء عرفنا شو يعني مواطن برا الكتب. كتير حلو كيف كل الناس في عم يشبهوا بعض بكتير مطارح تحت ظل القانون.
En vérité, c'est une expérience très riche parce que c'est la première fois qu'on voit comment les gens vivent effectivement et réellement la citoyenneté, comment les gens sont égaux devant la loi.
بعتقد انه الخبره بتواجدنا هون هي يعني بتعطينا ادوات الادوات اللي رح تعطينا اياها هي انه نحكي التجربه اللي عشناها ونحاول ننشر ثقافه المواطنه بشكل أو بآخر إن كان بالورشات أو إن كان بعلاقاتنا القريبة مع الناس اللي نحن متعاطى معها.
C'est surtout apprendre l'expérience française et diffuser, la transmettre et la diffuser dans nos workshops à des gens qui n'ont jamais appris, qui n'ont jamais vécu, qui ne savent presque pas que ça veut dire la citoyenneté.
أنا بالنسبة لي بدي بلش بنشاط اليوم اللي عملناه.
Moi, je commencerai par l'activité qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons assisté ce matin à une séance au Sénat. Alors que nous ne sommes pas français, nous sommes étrangers de passage.
هذا الشيء كان شبه مستحيل بسوريا انك تروح تحضر او تفوت على البرلمان ب
C'est une chose quasi impossible en Syrie d'aller comme ça en tant que citoyen assister à une séance au parlement, ça n'existe pas.
لهيك نحن بنشوف انه هذه التجربه كثير مهمه بالنسبه لنا لحتى نبين للناس انه عن جد في للمواطن حقوق مثل ما انه عليه واجبات كمان.
Rien que par cette expérience qu'on a vécue aujourd'hui, on peut dire aux gens, on peut montrer aux gens comment on peut être citoyen vraiment dans un pays.
Alors une autre forme d'expérience bien à la française, est-ce que vous avez assisté au match hier de l'équipe de France? Est-ce que vous avez senti l'ambiance dans Paris?
شكل اخر اشكال المشاركه الفرنسيه والمواطن الفرنسي امبارح شاركت او شفت كيف كان الناس عم يتفرجوا على يتابعوا الماتش تبع اللي كان شارك في فرنسا.
انا مش عشان الماتش بس في شغله تانية لما جينا على مطار باريس شفت واحد افريقي يعني بشرته سمراء كان هو
moi je veux dire quelque chose qui n'est pas en rapport directement avec le match d'hier mais quand je suis arrivé à l'aéroport de Paris j'ai trouvé un monsieur d'origine africaine
كان هو البوليس اللي عم يدير الناس وكذا فعرفت انه لا عن جد حتى لو كنت افريقي انت بالنهايه بتكون فرنسي
et c'était un policeman qui un agent de la police qui dirigeait les gens organisait leur passage et même tamponner le passeport et je me suis dit tiens n'importe quelle origine pourvu qu'on soit citoyen on peut être responsable et être et participer dans ce pays
et on peut même devenir footballeur je reviens au sujet
vers Anas
امبارح حضرنا الماتش مع الفرنسيين بساحة عامة
Hier, nous avons assisté au match avec les Français dans une place publique. C'était pour nous une expérience nouvelle que la première fois vécue.
الشعب أو المواطنين هنا فخورين بمنتخب بلدهم اللي عم يلعب ويحقق مكاسب وعم يربح.
Les citoyens étaient fiers de leur équipe nationale qui gagne.
Et cette ambiance et ce match, on en reparle tout de suite avec Lucas. Yamal et Cham, la sélection musicale que nous font découvrir nos invités d'origine syrienne. Et on entendait le titre, donc Yamal et Cham de Saba Fakhri. Je le prononce très mal. C'est pas ce titre-là ? On va m'aider.
Sabiha.
Ah oui, c'est Sabiha de Ibrahim Kevo.
Oui.
C'est ça ?
C'est ça.
Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. Et... Voilà. Merci, on a le bon titre et on a un sujet assez sérieux ce soir à l'apéro, mais quelque part, on a tous un petit peu envie de chanter On est en finale, on est en finale. Enfin, heureusement, Lucas nous a préparé une chronique pour revenir sur cette magnifique soirée.
Salut Lou. Alors, une équipe de foot, c'est comme la société. Il faut de l'entraide, de la solidarité et accepter nos différences. Bon, ça Lou, tu comprends, c'était la version cucu de ce qu'aurait pu être cette chronique que j'ai eu un peu du mal à écrire. Tu comprends que je pouvais pas garder ça, même si ça cache quelques vérités, c'était un peu trop gnangnan. Sinon, il y avait une version un peu plus rabat-joie. Ah, mais la Coupe du Monde, c'est que du business, avec ces joueurs qui sont surpayés. Et quand c'est pas du business, c'est politique. On a bien compris que la Coupe du Monde, c'était celle de Poutine, qui l'instrumentalise, qui se fait passer pour un héros, et vous, vous applaudissez bêtement. Après, je me suis dit que j'avais vu pas mal de matchs et que j'avais quasiment jamais vu Poutine dans le stade, en fait. Ah mais attends, mais c'est ça. Ouais, il se cache Poutine, il fait comme s'il n'était pas là, alors que c'est lui qui chapeaute tout pour récolter la gloire. Mais qu'est-ce qu'on est naïf. Bon, cette version partait mal aussi. C'est vrai qu'il faut rester lucide sur les enjeux politiques de la Coupe du Monde, mais j'étais pas tellement bien certain de ce que j'écrivais à ce moment-là, et de toute façon, je préférais attendre la fin de la compétition pour parler de ce genre de choses.
Alors moi, Lucas, je suis curieuse d'avoir ta version. Comment tu l'as écrit, cette chronique?
Eh bien, ce que j'ai choisi de faire, c'est de raconter mon impression de la victoire d'hier soir. Attention, c'est cucu aussi, hein. Mais j'ai le droit, parce que c'est sincère, et parce que c'est ma chronique, de toute façon. Une victoire comme celle d'hier procure une drôle de sensation. Elle réveille un lien qui nous unit tous, tout le temps, mais qui d'habitude reste en sommeil, et qui laisse sur notre visage cette jolie moue de gros blasé. Un exemple simple. Après la victoire de la France, j'ai croisé quelqu'un dans le métro qui portait le maillot des Bleus. Moi aussi je le portais. On s'est croisés, on s'est souri, on s'est tapé dans la main, et puis on a chacun poursuivi notre chemin de notre côté. Ce sentiment de télékinésie, de savoir à quoi pense le mec que tu croises dans le métro, parce que toi-même tu penses à la même chose, je l'avais déjà ressenti une fois dans ma vie, c'était en 2015, après les attentats. Mais hier soir, ça s'est fait dans la joie, sans arrière-goût amer de peur ou de tristesse. Le football a ce pouvoir simple de rendre tout le monde heureux. Bon, il y en a qui s'en fichent du foot, évidemment. Et d'ailleurs, on pense à eux, ça doit commencer à être un peu dur pour vous. Ne vous en faites pas, plus que quelques jours à tenir. Mais personne n'est fondamentalement contre le foot. La victoire de la France n'énerve personne, enfin je crois. Elle ne met personne en colère, parce qu'en fait, ça reste du sport. Et même, la joie des supporters peut déteindre sur ceux qui se fichent habituellement des matchs. La victoire de la France d'hier, c'était comme descendre dans la rue après une élection présidentielle pour applaudir un candidat qui aurait obtenu 100% des suffrages. Voilà ce que je voulais dire sur la Coupe du Monde et sur la victoire d'hier en particulier. Elle nous permet de vivre des moments de joie collective pure. J'encourage tout le monde à en profiter. Allez les Bleus, gagnez pour nous dimanche. Rendez-nous heureux et faites exploser les droits d'auteur de Gloria Gaynor.
Merci Lucas, je te rejoins pour dire allez les Bleus.
Garçon, deux bâtisses doublées, trois tripes.
Pour un pique en bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Alors justement, on est toujours avec nos invités Oussem, Yousra et Anas, qui sont donc activistes syriens en Libye et au Liban, activistes syriens au Liban. Et je profite du fait qu'on vient de parler de foot pour vous le demander. Vous, le foot, le sport, le divertissement, les arts et spectacles, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est risible? Est-ce que c'est pas très important finalement face à ce qui se passe réellement dans la vie de tous les jours?
هي اذا راح تستفيد من نقصة المباراة من كأس العالم عشان تسألكم انه هذا بالنسبة لكم انتم الناس اللي عايشين وضع صعب جدا ودقيق جدا وفي حرب شو بيعني لكم شيء انه في مباراة رياضية في عروض في الشارع وفي مسرح وسينما
اكيد هو شيء كثير مهم
يسرى
كتير شيء مهم يكون في رياضة وفي ثقافة ونشاطات ثقافية بأي وقت كان إن كان في حرب أو ما كان في حرب لأنه هي بمطرح بتساعد الناس اللي تحت ضغط على أنها تكون مرتاحة أكتر.
Qui soit en guerre ou pas au temps de guerre, la présence de la culture, des cinémas, des foot, etc. C'est quelque chose de très intéressant pour les êtres humains parce que ça les aide à être eux-mêmes, à être stable et tranquille.
بارح كان في شغلتين كتير بعاد عن بعض كتير كان حلو كيف الناس متجمعة وكيف كلهم مستنين نتيجة واحدة كيف كانوا عم يتفاعلوا مع الماتش بس بنفس الوقت
hier il y avait deux choses contradictoires au loin l'une de l'autre. D'un côté, c'était très joli de voir comment les gens réagissaient ensemble, que tous attendaient le même résultat, que tous applaudissaient leur équipe et attendaient que cette équipe fasse quelque chose de joyeux, mais en même temps.
بس بنفس الوقت كان في شوي شغب كان مفاجئ مع يعني المشهدين يعني كان في شيء كتير حلو كان شيء بمطرح شوي بخوف لأنه كان في كتير ناس وكان في يعني كان في سيارات مكسرة لأنه الناس واقفة فوقها فكان كتير مشهد هيك غريب.
Mais en même temps, il y avait quelque chose qui m'a étonné, qui était étrange pour moi, c'est que j'ai vu des gens monter sur les voitures et casser les voitures et faisaient des désordres. Donc moi, je ne voyais pas comment les deux facettes de cet événement peuvent coller ensemble.
بالنسبة لي هون بدنا نحكي عن فئتين من الناس. الناس اللي لساتها بسوريا وعم تحت القصف والدمار وعم تتهجر من بيوتها أكيد ما بيعني لها شيء الماتش.
À propos de votre question là, il faut que je parle de deux catégories de personnes. Il y a d'abord d'un côté les Syriens qui sont encore sous les bombes et sous les bombardements, sous les armes en Syrie et pour lesquels ces activités ne veulent rien dire pour l'instant.
علاوة إنه الماتش كله عم تصير بروسيا كأنه مكافأة من العالم لحتى لروسيا على جرائمها بسوريا وعلى دعمها لنظام قاتل.
Ajoutons à cela que cette coupe de monde passe en Russie comme si le monde entier donne une récompense, un cadeau à la Russie qui écrase, qui est responsable avant toutes les autres forces de ce qui se passe en Syrie.
بالمقابل في نحن الناس اللي كان لها فرصة أنه تطلع من سوريا وتعيش بأمان أكثر من الناس يلي بسوريا فينا نعتبر أنه هي حضور المباريات هي فسحة تسلية صغيرة بحياتهم.
Il y a une autre catégorie qui à laquelle nous appartenons, nous les Syriens qui sont sortis de la Syrie pour l'instant ou de Liban et qui vivent un temps très éphémère de joie et de tranquillité et ils trouvent que c'est vraiment une occasion de participer à cette fête populaire.
بالنسبة للوضع السوريين بقلب سوريا إضافة إنه ما في كهرباء المباريات هي بتكون ما بتكون بالمجان يعني بتكون بالمصاري.
Alors en ce qui concerne la Syrie à l'intérieur de Syrie, n'oublions pas qu'avant tout il n'y a pas d'électricité dans beaucoup de régions actuellement à cause de la destruction de la guerre et aussi pour pouvoir accéder à voir ces matchs il faut payer, ce n'est pas gratuit.
بس فيني أقول إنه الرياضة هي ممكن تجمع السوريين وتخضي على الحرب اللي عم تصير.
Mais je peux dire sans crainte que le sport peut être une activité qui rassemblerait les Syriens et qui les aiderait à vaincre la guerre.
بدليل إنه المنتخب السوري لما كان عم يلعب المباريات في قسم كبير من المؤيدين ومن المعارضين كانوا عم يشجعوا هذا المنتخب بغض النظر إذا كان هو.
La preuve de ce que je dis c'est qu'il y a peu de temps quand l'équipe nationale syrienne jouait pour accéder à la finale de Coupe du Monde, les Syriens, dans toute leur appartenance, soutenaient cette équipe et supportaient, oubliaient un peu la guerre qu'ils font quotidiennement pour être avec cette équipe.
Malheureusement, ce منتخب طلع من التصفيات قبل ما يفوت على.
Malheureusement, cette équipe est sortie de la compétition longtemps avant la fin de avant le commencement des finales.
J'avance un petit peu dans les questions. Anas, vous avez parlé de la Russie dans la Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de vous poser comme question, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont l'Europe gère les flux de migrants syriens qui viennent chez nous.
Derrière الأسئلة شوي وانت بما انك حكيت يا انس عن دور سوريا انا بدي اقول عن دور روسيا عفوا بدي اسالك سؤال انه كيف بالنسبه انت كيف ترى كيف تنظر الى هذا الدفق من المهاجرين السوريين القادمين الى اوروبا.
قبل ما نشوف ليش هذول كيف اجوا هدول الناس لازم نسأل المجتمع الدولي اللي هو عنده واجبات وعنده مسؤوليات بما انه هو بمجلس الامن كيف لازم ينهي هذا الصراع المسلح ببلدهم لحد اللي عم يخليهم يجوا.
Avant de parler, de discuter sur la présence de ces réfugiés dans les pays européens, il faut se poser la question, que fait la société mondiale, le Conseil des Nations pour trouver, porter une position politique en Syrie qui arrêterait la guerre et arrêterait le flux des émigrés d'arriver ici. Donc il faut chercher le rôle de cette ONU, de ces nations, avant de poser la question aux réfugiés.
للأسف المجتمع الدولي دائما بيحكي عن عن قضية ومسألة كيف نحل أزمة اللاجئين.
Malheureusement, la société internationale discute avant tout et parle avant tout comment on va régler le problème des réfugiés syriens.
ولا يفكر بشكل حقيقي كيف ينهي الأزمة اللي خلت هدول اللاجئين يجوا على.
Et ne réfléchit pas de manière efficace au problème qui a fait sortir ces émigrés et qui a créé cette émigration.
Yousra?
Peut-être j'élargis un peu la question. Nous, on a, comme vous le disiez, des enjeux politiques sur la venue des migrants et aussi une image du conflit en Syrie. Quelle est en Syrie l'image que vous avez de l'Europe et les attentes que vous avez face aux organisations internationales telles que l'ONU ?
ونحن عنا كأوروبيين عنا صورة معينة عما يجري في سوريا وأنتم انتقدتوها لكن أنا بدي أسألكم أنه كيف أنتم بتشوفوا نحن موقفنا مما يجري في سوريا؟
هلأ بعتقد أن المواقف متفاوتة بين الحكومات أو بين الناس اللي هن الناس مثلنا مثلهم اللي ما بإيدهم القرار.
Il faut dire que les attitudes ne sont pas de la même façon, sont différentes. Il y a les gens qui sont comme nous, qui travaillent comme nous dans ces civils, ou bien qui sont des gens ordinaires, entre parenthèses, et il y a l'attitude de pouvoir. Et les deux ne sont pas similaires.
بمطرح أنه الأخبار عم تيجي من محطات متفاوتة فالصورة بعتقد مو دايما بتكون واضحة ومو دايما بتكون كاملة فلهيك المواقف بتكون بناء على كل حدا شو وصله.
En même temps, l'information que vous recevez sont pas identiques. C'est pour ça que on constate qu'il y a des positions variantes selon l'information que vous avez et qui vient par des médiateurs différents.
Et Une des missions de réseau Euromed France, c'est de vous permettre de porter la voix de la jeunesse syrienne dans le débat français. Qu'est-ce que vous souhaiteriez porter auprès des politiques français ?
واحد من أهداف المنظمة دعتكم هي أن تساعدكم على إعطاء صوتكم على إسماع صوتكم في المجتمع الفرنسي. كيف تقدروا تسمعوا صوتكم؟ شو عملتوا بهذا الخصوص؟
نحن دائما كنشطاء عنا رسالة إنه نحن عم نبحث لسوريا على حرية وديمقراطية ومواطنة.
En tant qu'activistes, nous avons une mission, c'est trouver la liberté, la dignité et la démocratie pour la Syrie.
الاحتجاجات في سوريا بال 2011 كانت رسائل واضحة وصريحة وهي بهدول المجالات الثلاثة اللي حكيتهم.
Les manifestations en 2011 en Syrie étaient très claires et très franches et elles portaient ces trois objectifs.
الرد القمعي والعنف الممنهج اللي مارسه النظام تجاه هدول الناس المتظاهرين أدى بسوريا للشكل الحالي اللي هي صارت صراع مسلح.
La violence programmée et la sauvagerie avec laquelle le régime a riposté à ces manifestations a conduit à ce qu'on vit maintenant.
السوريين مالن إرهابيين.
Les Syriens sont pas des terroristes.
السوريين هن دعاة حرية.
Ils sont des gens qui appellent à la liberté.
وهدفنا نحن السلام لوطننا ولباقي الأوطان.
Et notre objectif c'est la paix pour notre pays et les autres pays aussi.
يا مال الشام ويا الله يا مالي طالي مطال يا ابن الوطن يا مال الشام يا الله يا مالي طالي مطال يا ابن الوطن
Thank you.
Yamal Elchlam de Saba Fakhri, dernière sélection musicale de nos invités qui sont autour de cette table, activistes syriens au Liban, ce soir avec nous. Je me tourne vers vous pour vous poser la question. C'est vous qui avez choisi les trois musiques de la sélection de ce soir. Alors, qu'est-ce qui a justifié vos choix ? Pourquoi vous aviez envie de nous faire découvrir ces musiques ?
J'ai une question. Vous avez choisi cette majmoua d'agani 3. Pourquoi vous avez choisi cette
بالنسبة لي هن ثلاث أغاني، أغنية يا نجمة الصبح لسناء موسى، أغنية يامال الشام لصباح فخري، والأغنية الثالثة لإبراهيم كيفو، هي أغنية كردية. بالنسبة لي أغنية يا نجمة الصبح هي بتغنيها مغنية فلسطينية.
Pour moi, donc, les trois chansons, chacune a sa spécialité et son importance. La première, la Najma al-Sabah, est chantée par une chanteuse palestinienne.
Mais
le titre de cette chanson est l'étoile de jour. Et l'étoile de jour parle de Damas et des matinées damascènes.
يعني كان في كتير فلسطينيين بسوريا وحتى اللي بفلسطين هن بيغنوا للشام مثل ما الأكراد كمان بيغنوا للشام.
Il y a beaucoup de Palestiniens vivant en Syrie ou bien même les Palestiniens dans leur pays chantent encore pour Damas comme nous les Kurdes dans le nord chantons encore pour Damas.
بالنسبة لي شخصيا في لي ذكريات مع هاي الغنية لما كنت بجامعة حلب كنت اسمعها كل يوم الصبح.
Personnellement j'avais des souvenirs très chauds très chaleureux avec cette chanson quand j'étais encore à l'université d'Alep. J'écoutais cette chanson chaque matin.
شيء كتير حلو من التراث السوري اللي هو اصلا عم بيتهدد كل يوم اكثر من قبل وهي من كل منطقه يعني وهذا الشيء بيدل على
Ces chansons pour nous sont très importantes parce qu'elles appartiennent toutes les trois au patrimoine culturel et matériel syrien qui est un patrimoine partagé, mais c'est un patrimoine malheureusement qui est sous une menace qui est en train de disparaître.
بالنسبة لي بشوف هالأغاني التراثية هي التراث اللي بقي يوحد السوريين سوا.
Pour moi, ces chansons appartiennent au patrimoine qui unifie encore les Syriens aujourd'hui.
كل السوريين مجرد ما سمعوا غنية يامال الشام بكل مكوناتهم بكل أشكالهم واختلافاتهم بيتراقصوا بطريقة واحدة هي اللي هي بتعبر عن تراثهم.
Quand les Syriens, n'importe de quelle communauté ils viennent, quand ils écoutent ces chansons, ils commencent à danser et à montrer leur joie de l'entendre.
Une dernière question en deux mots.
Oui, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Quels sont vos projets pour les mois à venir, les années à venir ?
بكلمتين بس ما هي مشاريعكم بالنسبة للسنوات القادمة؟
شخصية أو
شخصية.
بالنسبة لي تكمل دراستي.
Terminer mes études avant tout.
واستمرار النضال الحقوقي.
Et continuer dans la militance juridique.
كمان نفس أول شيء عند أنس أني خلص دراستي وتاني شيء إنه أقدر استغل دراستي بأني أعمل شيء مهم للناس السوريين وإلي.
Aussi terminer mes études mais en même temps profiter de mes études pour aider les Syriens et faire quelque chose pour eux et pour moi personnellement.
من ضمن أهدافي إني أتعلم اللغات الجديدة من اللغة الفرنسية وتاني شيء إني أتعلم الموسيقى العزف على آلة الطنبور بشكل جيد.
Ce que je veux moi c'est apprendre plus de langues et surtout la langue française mais en même temps m'améliorer à jouer la musique kurde avec un instrument kurde qui s'appelle un tambour.
Oussem, Yousra, Anas, vous êtes en France pour avec le réseau Euromed France pour découvrir les outils de la citoyenneté. Merci infiniment de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci énormément aussi d'avoir partagé cette vision tout à fait sensible et de nous avoir fait accéder à cette réalité de la Syrie. Un grand merci à Armad, le traducteur de cette soirée, car vraiment, c'était une conversation de qualité. J'enchaîne tout de suite parce que beaucoup de gens l'attendent et beaucoup, beaucoup de gens l'attendent encore plus que la demi-finale. C'est l'heure de la fiction d'été de Radio Campus Paris. Détendez-vous, soufflez, c'est maintenant.
Précédemment, dans Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen, l'inspecteur Tate a avoué au commandant Swanson et à mademoiselle Nevers, directrice de la sécurité, qu'un tueur en série se cachait dans le bateau.
Commandant Swanson ?
Oui, mademoiselle Nevers ?
En tant que directrice de la sécurité, je me dois de trouver qui est le tueur en série présent sur ce bateau.
Écoutez, mademoiselle Nevers, l'inspecteur Tate est sur l'affaire. C'est un professionnel. Laissons-le faire. N'est-ce pas, inspecteur ?
Tout à fait. Nous sommes sur le coup avec Bill. Pas vrai, Bill ? Bill,
oui,
où êtes-vous ?
Excusez-moi, inspecteur. Excusez-moi. Il y avait un atelier à Barbe à Papa. J'en ai fait une en forme de bonhomme de neige. Vous avez vu, c'est joli ?
Bill, je vous rappelle que nous sommes en mission.
Oui, mais incognito. Vous avez vu ? J'ai même fait des yeux avec des dragibus.
Inspecteur, en tant que mentaliste, je sais que vous avez besoin de mon aide.
Non.
Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Et je peux vous dire qu'un tueur en série se trouve sur ce bateau.
Oui, je sais, c'est moi qui vous l'ai dit. J'apprécie votre aide, mademoiselle Nevers, mais il s'agit d'une mission très sérieuse.
Et regardez, j'ai mangé un dragibus. Mon bonhomme en barbe à papa est maintenant devenu un cyclope.
Ça y est !
Quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Le tueur en série est là, je le sens, il approche.
Ah, commandant, je vous cherchais. Aurons-nous la joie de vous voir au bingo tout à l'heure ?
Évidemment, madame Gladanoué, je ne manquerai pas ça pour rien au monde.
C'est elle, j'en suis sûre.
C'est moi qui quoi ?
Madame Gladanoué, est-ce que la vue du sang vous a fait peur ?
Hein ? Non, j'ai travaillé toute ma vie en milieu hospitalier.
En milieu hospitalier, dites-vous, il y avait sans doute des morts dans cet hôpital.
Bah oui, fatalement.
Cela provoquait chez vous quel sentiment de voir tous ces morts ?
Mademoiselle Nevers, je ne suis pas sûre que...
Laissez-la répondre.
Eh bien, c'était triste.
Et hop, j'ai mangé le deuxième dragibus.
Vous n'étiez pas plutôt excité de voir tous ces morts ? N'avez-vous pas un plaisir jouissif à voir ces corps morts, cette chair se putrifier, cette délicieuse odeur des chambres froides, du corps qui se glace, de la peau qui frétille ?
Mais qu'est-ce qui vous prend ?
Est-ce que vous-même, vous n'avez pas essayé de provoquer la mort, de tuer des gens, de baigner dans leur sang pour assouvir vos fantasmes en vous masturbant à la vue de leurs entrailles ouvertes ? Répondez, vieille salope !
Non mais ça va pas !
Je vais faire un malaise, commandant Swanson, pourquoi dit-elle tout ça ?
Pour rien, madame Gladonway. Venez, on va aller au bingo. Mademoiselle Nevers, je vous attends tout à l'heure dans mon bureau.
J'étais à deux doigts de la faire avouer.
Vous voulez de la barbe à papa ?
Madame Gladonway était-elle la tueuse en série ? Vous le saurez dans le prochain épisode.
La suite très bientôt, on a hâte. Tout de suite, extérieure nuit, on est super en retard, mais juste le temps de remercier le réalisateur, Michael. Et puisque j'ai le temps, Jean, Lucas, Tiana, qui était avec moi ce soir, Elsa pour la préparation de cette émission. Restez avec nous sur Campus, c'est extérieure nuit, l'émission cinéma.
Il est 20h sur Radio Campus Paris.